RMC entre les poteaux,
Georges Quirino.
Et on est ravis de vous retrouver avec les poteaux. Vous le savez, abonnez-vous sur les différentes plateformes de téléchargement. Vous mettez 5 étoiles, comme ça vous êtes de bonne humeur. C'est le début du tournoi. On a gagné, donc normalement, c'est un grand moment d'euphorie. Bah, soyez avec nous et comme ça, on s'entraide tous ensemble pour que ça se passe bien. On aille chercher le grand chelem aussi sur les podcasts. On va se lancer ensemble dans cette deuxième semaine du tournoi des 6 nations qui se profile avec un déplacement au Pays de Galles. Ce sera dimanche à suivre sur RMC à 16h10. On sera sur place, évidemment. Vous pourrez suivre ce match sur notre antenne. Les Gallois qui sont en crise à tous les niveaux sur leur rugby, comment ils en sont arrivés là. On va essayer de tout comprendre avec un collègue journaliste gallois dans un instant qui va nous rejoindre. Dans ce contexte, la question que l'on va se poser aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment jouer avec les meilleurs bleus à Cardiff? C'est la question qui va nous animer et ça le fait déjà marrer. Wilfried Templier, chef Templier est là. Salut Wilfried.
Salut, ça fait très, très français quoi, très présomptueux quoi. Notre collègue, il va dire, oh là là, dans quel traquenard je suis là.
Mais c'est exactement ce que nous sommes, hein, des présomptueux.
Des français, des vrais français.
des mauvais français.
Pas moi.
Denis Charvet est là, salut Denis.
Pas moi.
De quoi?
Je suis pas prétentieux.
T'es pas prétentieux?
Non.
Arrogant?
Ça dépend à quelle heure quoi.
Enfoiré, oui. Même si on est très arrogant, les Français, on se croit les maîtres du monde.
Ah, ben oui.
C'est bien.
Et parfois, bam, retour de bâton,
et après,
pas grand-chelem.
Aïe, aïe, aïe.
Pierre Thévenet est là. Salut Pierre.
Salut tout le monde. On peut peut-être leur prêter quelques joueurs au Gallois. On en a beaucoup. T'es dans les tournois de jeunes, des fois, ça se fait de prêter un ou deux mecs.
Oh là là, vous êtes insupportable. Vous êtes insupportable.
Il y a le meilleur 10 de France, apparemment, qui est libre.
Donc, ouais, et Louis Carbonel qui est libre. Donc,
bon, je vais déjà l'accueillir, du coup, parce qu'on n'arrête pas de nous en prendre au Gallois. Iltid Dafid, journaliste gallois à l'AFP, est avec nous. Salut Iltid.
Salut, salut. On va prendre Jefferson Poirot pour rester dans la thème et ça va aller comme ça.
Jefferson Poirot, c'est bon ça dans le 15 du Poirot.
Excellent.
Bon, on va parler, tu vas tout nous expliquer dans quelques instants, Iltid, pour ce prochain déplacement à venir. Tiens, avant de commencer d'ailleurs, on va revenir sur le week-end, le premier week-end du tournoi des 6 nations dans un instant. Les amis, Fernand Galtier a donné 4 jours de repos aux Bleus, c'est ça? Je pensais qu'on n'avait pas de temps pour préparer les matchs.
Alors ça, c'est Cyprien Bétou qui te l'a soufflé, j'en suis sûr.
Le producteur
qui m'a fait ce week-end une heure là-dessus. Ah, il part en vacances, il ne pourrait pas s'entraîner plutôt.
Mais c'est quoi, c'est mérité après,
c'est
là.
Génial, c'est bien.
Il y a 10 jours.
Ah, il faut couper là.
Il y a un week-end de moins de repos cette année dans le tournoi. Hein.
Oui, aussi.
Normalement, ouais. C'était 2 matchs, un repos, un match, un repos et 2 matchs.
Là, ça s'enchaîne.
Là, il y a 3 matchs, un repos, 2 matchs. Donc il y a un week-end de moins de repos. Il y avait plus de 10 jours là, entre les 2 matchs entre l'Irlande et le Pays de Galles. Bon,
c'est parce qu'ils ont joué le jeudi soir.
Ah, vous avez vu, le chef du rugby RMC, c'est le directeur des ressources humaines. Non, mais attendez. Il y a un week-end avec aussi.
En plus, à la vitesse où je devais, je me suis dit, les gens n'ont rien compris.
Non, mais ils auraient joué le samedi, Georges, je pense qu'il n'y aurait pas eu de repos.
C'est vrai?
Non.
Bon. Toi, tout va bien, Denis?
Oui, impeccable. J'ai croisé les joueurs ce matin.
C'est vrai?
Ouais.
Comment ça? Je vous rappelle, on est lundi au moment de l'enregistrement de ce podcast.
Ouais,
où ça, dit
Mathieu, et j'allais bien, Louis Bielbarré.
C'est vrai?
Qu'est-ce que vous avez fait?
Fait un petit hammam.
Nous on est partout, nous.
Voilà.
Les gens, on envoie les.
Ah, ils sont en pleine forme.
Attends,
ils ont fait un peu de...
J'ai vu des photos, ils sont en grande forme.
J'imagine qu'il faut respecter le secret, un peu la
confidentialité. Non, il n'y a pas de secret.
T'as appris des choses importantes?
Mais aucun, j'ai rien appris du tout. C'est mon pote.
Ouais, t'as parlé de PSG Marseille, en fait.
Voilà, exactement.
La grande
victoire du PSG, c'était à PSG Marseille, exactement les deux.
Voilà, vous avez compris, hein, entre les poteaux, c'est vraiment un podcast
et
d'insider.
Au rassemblement cet après-midi, donc lundi après-midi à 17h, il me semble.
Oui, ils vont en marquer cet après-midi. Entraînement demain matin.
Bon allez, les poteaux, tout de suite ce que je vous propose, c'est qu'on revienne tout de suite sur la première journée du tournoi.
La victoire de l'Italie, 18-15, 3 petits points d'écart, ils ont été courageux ces Italiens. Ils finissent par s'imposer grâce à 2 essais de Meloncello et Lainag. Et les Anglais, le match se termine sur cette transformation de George Ford. Ça fera 50-7, l'Angleterre s'impose largement.
Un essai à la NBB, Denis.
Ah oui, extraordinaire ce qu'il fait.
Le coup de pied par au-dessus de Ramos, c'est bon. Bien, c'est magnifique.
Bien,
c'est superbe. Un essai de Bielbiaré. La phase de footballeur de Thomas Ramos.
C'est le Brésil.
Pour Bielbiaré.
Oui.
C'est mieux que Strasbourg-Monaco. C'est France-Irlande. Le score final, 36-14 pour les Bleus.
il me semble important de préciser quand même, c'est mieux que Strasbourg-Monaco, c'est concernant.
Il est fou.
C'est parce qu'en même temps, il y avait Strasbourg-Monaco.
Dès qu'on peut mettre un taquet à un collègue.
Il a dû se faire couper la parole une fois dans le match, il l'a gardé.
Mais j'imagine les auditeurs qui nous écoutent, mais pourquoi comparer avec Strasbourg-Monaco?
Parce que éventuellement, Strasbourg-Monaco.
France-Argentine. Strasbourg-Monaco. Ok, bah oui, d'accord. Oui, c'était mieux. Le premier week-end des poteaux, la première journée du tournoi des destinations. Bon, voilà, on va pas revenir sur les scores précis, hein, la victoire de la France face à l'Irlande. L'Italie, voilà, qui a gagné face à l'Écosse sous la pluie 18-15. Et donc, le succès anglais, désolé Hilton, face au Pays de Galles 48-7. Ça a été compliqué. On va faire comme d'habitude, mais là, en mode tournoi, les meilleurs et les pires poteaux de cette première journée. Tiens, meilleur poteau, Wilfried, on commence par toi.
Meilleur poteau, Oscar Jégou. Oscar Jégou, parce que bon, il y avait de la facilité avec Michael Guillard, hein, homme du match, Thomas Ramos, on en a parlé. Mais il y a vraiment quelqu'un qui m'intrigue dans cette équipe de France, c'est Oscar Jégou. Parce que, il a joué 80 minutes, lui. On a fait beaucoup de coaching, on a beaucoup parlé aussi, 50e, il a sorti beaucoup de monde, mais pas Oscar Jégou. Il a fait, deuxième meilleur plaqueur derrière Jelonge, 15 plaquages, à près de 90% de réussite. Deux turnovers et Oscar Jégou, il s'installe dans cette équipe en fait. Il a commencé l'année dernière dans le tournoi, il était 5 fois remplaçant. Il a fait une première titularisation en novembre et voilà, il a un peu tout, du QI rugby. La touche, c'est notre meilleur pourvoyeur. On fait 100% en touche, il en prend 6 sur les 15 françaises. En défense, il est énorme, on l'a dit, et il fait 94 kilos. Voilà, quand on a des Golgothes, quand on a un rugby comme ça, ce mec-là se le plaque, se relève, replaque, prend les touches, joue les ballons. Et quand je dis il m'intrigue, c'est que je pense qu'il va falloir compter avec Oscar Jégou sur les semaines à venir.
Il serait blond en le comparer à Pollock.
Ouais, alors attention, parce que t'as le fan numéro 1 de Pollock à côté de toi avec Pierre Thévenet.
Salut Pierre Thévenet.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais Pollock est un peu plus costaud.
Ouais. Légèrement.
Moi, je t'aime un peu moins d'activité.
Il est plus complet.
Mais au niveau du déplacement, de l'activité, c'est impressionnant. C'est vrai que tu as raison de parler de lui.
On a revu des séquences où il y a McCluskey qui vient, il le plaque, il le retourne, il se relève, Doris qui vient, il est impressionnant dans son énergie.
Meilleur poteau de cette première journée du tournoi Destination, Denis, ça peut être une équipe, hein, aussi.
Oui, moi, je voulais parler, la France, c'est pas la peine parce que le était trop faible, mais j'aurais pu parler de Bielbiaré, de Matou Jalibert, de Ramos qui a été extraordinaire. Mais je préfère souligner la performance des Italiens malgré le déluge, parce que c'est vrai que quand il pleut, qu'il y a ce déluge-là, ça nivelle un petit peu les valeurs. Mais quand même, la débauche d'énergie.
Mais ils ont mené tout le match.
Le courage, ce qu'ils ont fait en défense, ça m'a impressionné de voir cette débauche d'énergie. Et de cette abnégation, vraiment, on les connaît, hein, les Italiens, ils sont courageux, c'est des guerriers. Mais
oui, mais souvent à la fin, ils perdent, Denis n'est pas là.
Et là, ils n'ont pas lâché, ils ont joué déjà la dernière séquence qui était interminable. Tu te dis, ça va rompre, puis non. Pour moi, c'est les Italiens sont vraiment exemplaires ce week-end.
Il se passe un truc, peut-être avec les Italiens, on rappelle, hein, coaché par Gonzalo Quesada. Pierre, ton meilleur poteau?
Il fallait parler des Anglais un petit peu quand même si le Pays de Galles était très faible. Je voulais parler de George Ford. Aussi, oui. George Ford, qui est souvent l'ouvreur qu'on place derrière Marcus Smith et Finn Smith, qui sont un peu plus magiques, qui créent plus de choses sur le terrain. Mais George Ford a été énorme contre le Pays de Galles. Parfait dans ce qu'il a fait, dans son animation, au pied, à la main. Et je pense que dans le style de Steve Borthwick, c'est lui qui tient les rênes de cette équipe anglaise.
Il l'a fait renaître. Hein.
Il l'a fait renaître. Ouais. Il est parfait dans ce qu'on lui demande de faire.
Il a mis tout le monde d'accord.
Et exactement. Et il est en train de régler le truc. Marcus Smith, quand il rentre à l'arrière.
Il est fort, Marcus Smith.
Mais bien sûr qu'il est très fort. Mais dans le côté gestion, jeu au pied, George Ford.
On aurait pu ajouter, j'ai pensé à lui, Earl, Ben Earl, qui a été exceptionnel en 8.
Est-ce qu'il n'y a pas plus une tête d'anglais que Ben Earl?
Ben Earl, George Ford, Henry Pollock, t'as des belles têtes d'anglais.
Wilfried, t'es d'accord que ce mec et ce joueur, il est monstrueux.
Il est monstrueux. Et en plus, il a la tête d'anglais, quoi. Il a vraiment la tête.
Qu'est-ce que ça veut dire,
ça? Ça veut dire que, chercher Ben Earl.
La traduction, c'est roast beef.
Très bien. Est-ce que dans les podcasts rugby qu'on peut dire ça?
Oui.
C'est bien parce que Pierre n'a pas dit Pollock, parce qu'il, comme
il était remplaçant, c'est compliqué.
Comme on a redit il y a quelques instants que tu étais le président de son fan club, c'est important de pas trop insister dessus. Comme c'est une finale contre les Anglais qui se profile de plus en plus maintenant pour nos bleus, enfin on verra, il va falloir bien continuer, bien sûr.
Et puis il a quand même marqué un essai qui a été refusé parce qu'il est plaqué, mais il le célèbre quand même, son essai qu'il a pas aplati. Et ça, c'est
ça t'a plu quand même, il a célébré quand même
pas très fort. Et au final, il y a carton jaune et il a
la aplati, mais il a eu le
plaquage.
Tiens, on reste avec toi, ton pire poteau du week-end.
On en a parlé ensemble, Georges, ce matin, ce maillot de l'Écosse qui est horrible, ce maillot lavande violet. Qui méritait quand même d'être signalé, surtout qu'avec la pluie, c'était de pire en pire pendant toute l'après-midi, ça dégoulinait de
violet. Au début, ça allait.
Au début, tu dis,
dit.
Avec un peu de soleil, ça le
non,
fait.
Non, ça passe même pas la fin de l'année.
Ouais, non, c'est terrible. Non, voilà, non. C'est, ça s'est raté, il fallait le souligner.
Dans la continuité, moi je dirais l'Écosse. L'Écosse,
c'est mon pire poteau aussi, Denis.
Ah, moi,
c'est.
Attendez, juste sur le maillot déjà.
Moi, je m'en fous du maillot, mais surtout ce qu'ils en ont fait, quoi, du maillot. C'est surtout ce qui. Non, mais ils ont été catastrophiques. Franchement, je misais sur l'Écosse et ils m'ont énormément déçu dans tous les.
C'est ton pire poteau?
Dans tous les compartiments du jeu, j'ai pas reconnu cette équipe d'Écosse. J'ai trouvé il manquait d'agressivité, d'engagement. Alors pris par l'intensité du jeu italien, c'est vrai, mais ça suffit pas quoi.
Ils ont mis des cadres de côté.
Il faut se révolter. Ils l'ont pris à la légère, je ne le crois pas. Mais à l'arrivée, ils perdent. C'est grave pour eux parce qu'ils sont derniers déjà. Enfin, pas derniers, avant-dernier. Et ils vont pas s'en remettre.
Ils vont pas s'en remettre.
Non.
Tu penses?
Non,
ils reçoivent l'Angleterre.
Ils reçoivent l'Angleterre, je pense que les Anglais battront les Écossais chez eux.
Wilfried?
Ouais, c'est pareil. Pareil, j'étais déçu par les Écossais. Alors, croqué par les avant-italiens, pris sur les mêlées.
Et en mêlée,
pas le pack écossais qu'on met toujours en avant, évidemment, mais quand même, il y a des mecs là-dedans. Moi, je regarde la
alors qu'on en avait parlé des Écossais la semaine dernière.
Et oui, la campagne de Glasgow en Champions Cup, mais ils m'enlèvent Kinghorn à l'arrière sur un match comme ça et ils sont fait manger sur des ballons hauts. Voilà, et encore, ils peuvent le faire à un moment dans le match, hein, et finalement, il manque plein de choses. Ils sont tristes un peu les Écossais, même à l'image de leur sélectionneur qui est annoncé apparemment à Newcastle, Gregor Townsend.
Comment tu te prives de cadre? C'est un truc que j'arrive pas à comprendre.
Kinghorn, Jones, c'est le joueur qui a fait le plus de mettre ballon en main.
Il y a le trois quarts centre qui n'était pas là non plus.
Non, oui. Si Hugh Jones était là, mais
il était là, était remplaçant.
Van
der Merle.
Non, c'est Van der Merle qui était pas là, ouais. Mais t'as Jones, Sweepulutu, décevant mais incroyable. Et je pense qu'ils ont une sacrée pression face aux Anglais pour la deuxième journée.
Quand tu vois les Anglais tourner comme ils tournent, tu peux avoir que la pression.
Deuxième journée, Italie qui se déplace en Irlande samedi à 15h10, 17h40. Donc vous l'avez dit, Écosse, Angleterre, et évidemment donc dimanche 16h10, Galles, France. On va se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire là-bas et avec qui, surtout à Cardiff l'année dernière. Chez nous, c'était limpide. 48-0.
C'est parti entre la France et le Pays de Galles. La passe au pied. Allez, pour Adi Sogbé. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Adi Sogbé.
Quelle passe au pied d'Antoine Dupont.
Antonio Entamax extérieur. Thomas Ramos pour Bielbiaré.
Et c'est Bielbiaré.
C'est magnifique l'action des Français. Il est passé Antoine Dupont. Allez, deux crochets extérieurs maintenant. Il va dédier les douzelles. Quel est Rélan. Il va sur l'extérieur pour Adi Sogbé. Sur l'extérieur, Louis Bielbiaré, le crochet intéressé.
Et c'est le Bielbiaré.
Oh, quelle passe de Dupont encore. Quelle passe de Dupont. C'est terminé. La victoire des Bleus, 43-0. 7 essais marqués ce soir. L'équipe galloise surclassée.
Oui, c'est bien parfois de se rappeler les bons souvenirs, les amis. Donc, avant ce match 2 pour nos Bleus, premier déplacement dans le tournoi au Pays de Galles. Donc, je vous le disais, à 16h10, à suivre sur RMC, on sera sur place, Denis.
Wilfried.
Et Pierre.
Je serai là aussi, mais
vous serez là-bas.
Et oui, donc, tu ne seras pas à m'écouter.
Je suis en derrière dans ce
stade. Du coup, l'expérience RMC n'est pas tout à fait la même.
Bien sûr que Pierre est là, j'ai oublié de le nommer. Évidemment, il est interchangeable.
Tu ne respectes pas.
Interchangeable?
Non, c'est William Merce.
Et donc, on a un poteau gallois avec nous, Hilton David, donc t'es journaliste à l'AFP, on le disait tout à l'heure, t'es un habitué, tu suis le 15 de France aussi, donc tu vas rester avec nous pendant toute cette partie. Tiens, déjà, peut-être, Hilton, intéressant de savoir comment les Bleus sont vus hors de France. Alors, tu habites en France, mais forcément, tu sais un peu ce qui se dit sur nous.
Ouais, en général, tout le monde est admiratif de la génération actuelle, mais ils ont aussi peur de la génération qui arrive. On voit en U20, c'est exceptionnel. On voit dans le championnat espoir, même il y a des très très bons joueurs. Fabien Galthié a réussi à écarter trois cadres. Il les a remplacés et ils ont trouvé des joueurs qui étaient même plus forts. Donc il y a beaucoup de peur.
Ouais. C'est bien. C'est bien aussi de se rendre compte à quel point ça peut être impactant. Parce que nous, on est toujours très critiques, polémiques peut-être parfois sur les choix de Galthié et d'avoir ce côté extérieur.
On est critiques parce qu'on attend toujours mieux d'une génération qui est dorée. Quoi,
surtout avec l'objectif d'un grand chelem.
Une génération qu'on n'a jamais eue. Voilà. C'est pour ça qu'on est parfois frustrés.
Et puis comme dit Hilton, celle d'après paraît encore plus terrifiante peut-être. Et ça, il n'y a aucune autre nation du tournoi qui a cette relève qui...
qui arrive. Alors avec toi, Hilton, on va essayer de comprendre pourquoi les Gallois sont à ce point en crise à plusieurs niveaux dans leur rugby. Problème avec les clubs, bien sûr, avec ce 15 du Poirot aussi. Dernier, les deux derniers tournois qui restent sur 12 défaites consécutives dans la compétition. Alors sur le papier, ça s'annonce simple hein, pour nos Bleus, mais faut-il vraiment jouer avec les meilleurs au Pays de Galles? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors les poteaux, le staff du 15 de France, on va le rappeler, a établi une nouvelle liste de 42 pour préparer à Marcoussis ce prochain match. Les infos rapidement, Calvin Gourgue, forfait, on rappelle, pour des douleurs à la cheville, remplacé dans le groupe par le Palois Gaëton. Romain Tamac, toujours blessé, on va en parler, encore qui laisse encore la lumière du coup à Mathieu Jalibert. Et puis il y a le retour de Paul Boudéan et surtout de Thibaut Flamand, on rappelle, hein, qui avait fait l'impasse sur le premier match parce qu'il suivait un protocole PMA avec sa compagne. Il avait fait ce choix de sa vie privée pour justement ensuite revenir. Il est de retour dans le groupe et ça rebat un peu les cartes dans le paquet d'avant. Peut-être un casse-tête à venir pour Fabien Galthié et son staff. On va commencer par là peut-être, les poteaux, je sais pas, Wilfried, le retour de Flamand, c'est un retour dans le 15 forcément.
Bah,
y a pas de débat là-dessus.
Dire forcément. Bah, faut être dans la tête de Fabien Galthié, mais c'est un titulaire indiscutable, Thibaut Flamand, quand même. Alors, on sort d'une prestation XXL de Charles Olivon à ce poste de numéro 4, mais vous êtes d'accord avec moi que Thibaut Flamand, c'est
ouais,
sa place, hein, numéro 4.
Il peut le faire mettre sur le banc pour son retour. Hein. Ouais, je crois. Hein. Je ne pas surpris.
Ouais, non, mais c'est possible. Hein. C'est possible.
Je ne serais pas surpris qu'il laisse la continuité, dans la continuité l'équipe type et qu'il fasse rentrer Thibaut Flamand. Et qu'il, après, il est titulaire en puissance. On est d'accord. Mais je pense que le changer maintenant serait maladroit.
Bah, y a plusieurs options. Soit il le met en deuxième ligne à son poste, Thibaut Flamand, et que Charles Olivon recule en troisième ligne en faisant, par exemple, sortir soit Jégou, soit Jelonge, soit Cross. L'autre option, c'est aussi de le mettre titulaire en numéro 4 et de mettre Charles Olivon sur le banc, qui a cette capacité à jouer 4, 6, 7 ou 8 et qui donne une polyvalence.
La flexibilité maintenant.
Non, mais qui donne une grande polyvalence sur
effectif.
Le banc. Et peut-être qu'un garçon comme Hugo Radou, qui est très performant en top 14, n'a pas cette capacité d'impact aussi fort qu'a Charles Olivon. Ça peut être une autre option, c'est de mettre Thibaut Flamand titulaire. Et de faire glisser Charles Olivon sur le banc en lui donnant 30 minutes.
Je pense que c'est très maladroit par rapport au message, par rapport à la performance d'Olivon. Voilà, alors le contexte étant que Thibaut Flamand a voulu, a décidé de pas être sélectionné, hein, parce que c'est ça.
Et de rester auprès de sa compagne. Hein,
Oui, non, mais bien sûr, on respecte sa position, mais je pense que ce serait bien de l'inclure sur le banc et de le faire entrer à la 60e.
Mais tiens, puisque tu touches déjà un petit peu le sujet, toi, tu penses qu'il ne faut pas toucher le 15?
Ouais.
Il faut récompenser.
Moi, je pense qu'il faut mettre la même équipe. Je suis pas coach.
Même 15 de départ, hein, d'accord.
Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce que tu remercies une équipe qui a été fidèle à ton discours, à ton message, à ta stratégie. D'ailleurs, il l'a dit, d'ailleurs, en conférence de presse, il les a remerciés, hein, et c'est rare quand il fait ça. Hein, il a été élogieux par rapport à la première mi-temps ils ont été, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de France aussi conquérante, aussi belle à voir jouer. Voilà, tu la remets le match à suivre.
Mais est-ce que, sans manquer de respect à Hiltud et les Gallois, est-ce que ça va être le match le plus simple du tournoi? On le sait sur le papier, il n'y a pas photo entre deux équipes.
C'est pour ça qu'on pose la question.
Le tournoi est très long, est-ce que c'est pas le moment aussi de donner un peu de temps à Gaël Dréhan, donner un peu de temps de jeu à Fabien Broboiry, ces mecs-là qui, peut-être que c'est l'occasion de les faire jouer. Tu ferais ça à un autre moment du tournoi?
Non, mais la question se pose, mais moi je pense que aujourd'hui,
c'est dangereux quand même, non ?
Aujourd'hui, il faut respecter le collectif. Et aujourd'hui, ça serait une erreur de changer les lignes. Et au contraire, quand on voit le match de la charnière, il faut continuer dans ce sens-là.
On va en parler dans un instant.
Il faut continuer à mettre en place ce jeu avec les meilleurs, tout simplement. C'est l'équipe de France. Moi, je veux bien que tu fasses du roulement, mais non, là, tu fais un tournoi pour gagner un grand chelem.
Oui, Wilfried.
Et il faut enchaîner, quoi, tout simplement.
Non mais Pierre, ça, c'est faisable, mais quel message général on envoie en se déplaçant quand même au Principality Stadium ou même
non,
si
je dis pas qu'il faut
dans le dur,
l'équipe B, hein.
Non mais même en faisant tous ces changements, je sais pas, il reste 16 matchs avant la Coupe du Monde. Fabien Galthié se plaignait toujours qu'il n'avait pas assez de matchs avec ses premiums, que tout était compté chaque minute, donc
c'est un gros match, c'est un match international, hein, même si l'équipe de Galles est plus faible, il faut assurer quoi, il faut.
Qu'est-ce que tu en penses, Hilton? Toi, tu penses que le 15 de France a besoin d'emmener le 15 de gala que l'on a vu face à l'Irlande?
Je dirais pas qu'il faut emmener les U20 même, mais l'équipe de France pouvait bien faire des changements, mais je crois que ça serait très à la française de changer juste pour changer. Je suis d'accord avec Denis pour dire à la charnière, il faut les garder ensemble, il faut les laisser jouer autant de temps ensemble, autant de temps ensemble, parce que avant le match contre l'Irlande, il y avait que le débat et la polémique autour de Jalibert et Dupont, est-ce que ça fonctionne ou pas. Là, ça fonctionne, donc il faut le laisser un peu poil du temps, et il y a pas mal de jeunes, comme Jégou, des porteurs, qui sont, ils ont vers une dizaine de sélections, il faut faire jouer.
Il faut engranger les sélections. Exactement. Il faut, l'expérience est irremplaçable. Quand tu vas jouer au Millennium, même si c'est une équipe du Pays de Galles plus faible, eh bien, c'est un événement en soi, donc il faut le vivre, il faut être à la hauteur, il faut enchaîner les performances, que ce soit deux porteurs, Moefana,
sa huitième sélection à deux porteurs, hein, et dixième pour Jégou.
Donc, il faut enchaîner, on n'est pas dans la rotation, c'est pas le laboratoire, Pierre. C'est ce que je veux dire. Là, on est dans une compétition où il faut aller gagner.
Oui, mais par exemple, Denis, Moefana a une petite douleur au genou. Il est sorti à la 50e, même okay. si a priori ça va. On attend les
si
examens.
Ça va, il faut qu'il joue.
Oui, c'est ça. On prend le risque de tirer un peu sur lui.
Tu tires pas. Tu prends. Dans comme un accord, si le joueur est apte et qu'il te dit je suis à 100%, il joue. S'il a 80%, je te dis non, il faut pas qu'il joue.
En tout cas, la question peut-être qu'il peut se poser, c'est sur Flamand, surtout, parce que c'est un titulaire habituel.
Oui.
Sur le retour de Boudéan, par exemple, on rappelle, il avait un problème au cervical.
Boudéan, j'ai une peur pour sa place dans les 23, Paul Boudéan. Leninouchi fait une super entrée
mais
contre.
Pas Boudéan.
C'est ça la question. Paul Boudéan, c'est aussi un cadre de Fabien Galthié qui était là en novembre. Mais là, quand on voit l'entrée de Leninouchi, la performance d'Oscar Jégou, on se dit où est-ce qu'on va pouvoir mettre Paul Boudéan? Et c'est des problèmes de riches hein, pour Fabien Galthié et le 15 de France. Mais c'est vrai qu'il y a certains cadres où plus qu'avant, on a l'impression que si tu rates un ou deux matchs, tu peux vite. On se pose la même question pour Ntamack et que pour Boudéan, c'est un peu les mêmes cas. Ils n'ont pas été là et les absents ont toujours tort et on se demande comment ils vont revenir dans cette équipe.
Wilfried, t'es d'accord là-dessus?
Oui. Salut.
Okay, merci.
À demain. Non mais à un moment donné, quand c'est évident, pourquoi développer?
Non, mais c'est l'équipe de France.
Quand même, hein.
Non, mais on sait très bien que vas-y, Wilfried. Mais...
Non, mais après, Boudéan est devant. Enfin, oui, il y a la politique de l'homme en forme. Nouchi a fait une grosse rentrée, mais Boudéan a un autre vécu. Fabien Galthié, s'il est à 100%. Fabien Galthié ne se décidera
moi, je pense
de,
que le devoir de non, mémoire, ça marche.
La problématique, quand même, Wilfried. Qu'ils reprennent Boudéan. Tu fais sortir quoi, Nouchi?
Techniquement, oui.
Mais alors, ça veut dire que Nouchi, tu vas pas le roi du tournoi. Quand tu vas enchaîner.
Il y a des blessures.
Ah, oui, non, mais
pas,
si tu vas en Écosse.
Après, il compte beaucoup dessus, Nouchi, depuis plusieurs mois.
C'est ce que je te dis. Après, Boudéan, il revient. Moi, je pense pas que Nouchi soit en danger. Hein.
Non, mais Boudéan était devenu un titulaire, Denis, en novembre, quoi.
Oui, mais Nouchi fait des performances incroyables avec son club. Là, il fait une rentrée fracassante. Tout le monde dit du bien de lui. Mais Fabien voit en lui. Tu parles de Nouchi à Fabien. Fabien, il est convaincu. Donc. Attention, je ne sais pas comment ça va se passer.
On va voir, évidemment. Je vous rappelle qu'on est lundi au moment où on enregistre ce podcast. Hein, on est au début de la semaine sur rmcsport.fr et sur RMC. Vous aurez toutes les informations sur la compo. Hilton en a parlé il y a quelques instants sur la charnière. Voilà, il faudrait peut-être enfin l'installer. Là, a priori, la question, elle ne semble pas se poser. Voilà, puisque Romain Ntamack, donc on le disait, est encore blessé. Hein, on a appris donc cette semaine qu'il est cette fois-ci victime d'une petite blessure musculaire. Hein, c'est ça, Wilfried, qui décale encore...
Ouais.
Son retour, il a pas joué depuis le 28 décembre. On parlait au début de soucis au rein. A priori, il est remis de ça.
Oui.
Bon, ça quoi? Ça dure encore un peu pour Romain Ntamack?
Bah, disons que il était censé être opérationnel au moment où on se parle. Et donc, à postuler, même s'il avait pas, et tu l'as répété, il a pas joué depuis fin décembre. Ça fait beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup par rapport aux matchs internationaux. Mais il peut aller faire un tour à Marcoussis et voir ce que ça donne. Sauf que là, il a eu un petit problème musculaire en fin de semaine dernière. Donc il peut pas postuler. Et puis surtout, après, ça veut dire qu'il y avait un match de top 14, le Stade français Toulouse au moment où la France joue au Pays de Galles. Après, il y a un autre repos et ça décale une potentielle reprise de Romain Ntamack à fin février avec un Toulouse-Montauban. Donc ça veut dire que que Jalibert est sûr, et de par sa performance aussi, attention, plus encore que la non-possibilité de Romain Ntamack de jouer. Voilà, c'est une autoroute pour Mathieu Jalibert sur les trois premiers matchs du tournoi.
Denis, sans nous dire ce qui s'est dit au hammam ce matin avec Mathieu Jalibert. Non, mais voilà, Wilfried dit c'est une autoroute. Effectivement, là, ça semble être le cas. En plus, le premier match a été bon, effectivement, pour Mathieu Jalibert. On commence à se poser la question aussi sur Fabien Galthié. Qu'est-ce qu'il va faire après, au moment où Ntamack reviendra? Là, il y a quelque chose qui semble s'installer. On s'est tellement pris la tête là-dessus qu'il faut y aller à fond maintenant.
Et il y aura match, tout simplement. Et puis, ça va être compliqué d'enlever Mathieu s'il réitère les performances qu'il est en train de faire. Moi, je pense qu'il va s'installer dans le fauteuil numéro 10.
Et ce match lui a fait beaucoup de bien à Mathieu Jalibert en zone mixte après la rencontre. Il était très détendu. Il a dit, ça va me donner de la confiance pour la suite. Ça fait du bien de rejouer. Quand quelqu'un l'a titillé un peu sur ses plaquages en disant, t'es 11 sur 12. Il dit, ah, vous comptez ça? Quel plaquage j'ai raté? Enfin, il était là, il s'amusait. On sentait bien que ça lui faisait du bien d'avoir retrouvé le milieu des Bleus, d'avoir gagné, d'avoir fait un bon match. Et il avait l'air très à l'aise.
Surtout, mentalement, je l'ai trouvé très fort parce qu'il avait quand même une certaine pression sur les épaules. Il fallait pas qu'il se trouve. S'il se trouvait là, il aurait eu du mal à revenir. Là, il a tout son potentiel. Il a pu s'exprimer avec tout son potentiel, ses qualités. Il a rien loupé. Il a fait un match XXL face
complet.
À une... Voilà. Donc, ouais. Et je pense quand même que ça vient aussi du changement d'attitude de Fabien Galthié. Je pense que vis-à-vis de lui, il a un autre regard, Fabien. Il a vu que le garçon avait travaillé, notamment en défense, que dans l'application même, dans le remplacement, dans la maîtrise du jeu, dans l'alternance. Et je pense que maintenant, il a toute la confiance de Fabien.
La relation a évolué positivement.
Oui, vraiment.
Et ça, c'est important.
Non, mais parce que c'est pas important, c'est essentiel.
C'est une info à même.
Non, mais c'est essentiel.
Non, mais c'est fort ce que tu as dit. T'as pas dit il peut s'installer comme numéro 10, tu dis il va s'installer comme numéro 10.
Oui, je pense. Je le pense, oui, mais attention, s'il refait les mêmes performances, après, il faut qu'il soit constant dans ses performances. Mais s'il nous fait refaire des matchs comme ça contre l'Angleterre ou les grandes nations, eh bien, voilà, il va devenir l'un des meilleurs numéro 10 au monde.
Hein. Qu'est-ce qu'on pense de notre numéro 10 actuel au Pays de Galles, Mathieu Jalibert? Non, mais il fait parler au-delà des frontières.
Je sais pas parce que Romain Tamac est tellement connu, grâce à probablement son père aussi.
Bien sûr.
mais Jalibert a beaucoup. Pour former en Coupe d'Europe cette saison, oui. Contre la Scarlett aussi. Il a marché sur l'eau, donc tout le monde le connaît. Il a gagné la Coupe d'Europe à Cardiff il y a 8-9 mois aussi. Donc
oui, il a été très bon.
Il est connu. Mais là, pour lui, personnellement, je pense qu'il lui faut de franchir cette dernière cape. C'est une grosse performance contre une vraie équipe. Parce que l'Irlande, première mi-temps, c'était quasiment rien.
Non, mais tu as raison, il faut attendre d'une grande performance contre l'Angleterre, une match référence.
Ou en Écosse.
Pour moi, quand même, l'Irlande, c'est un match référence pour lui, quand même, parce qu'il y avait tellement de la pression de sa performance qu'on ne peut pas dire qu'il ait fait. Je pense que c'est une référence pour lui.
Bon, bah écoutez, de toute façon, là, effectivement, ça semble être une autoroute désormais pour Mathieu Jalibert sur ce tournoi. En tout cas,
au moins la première partie.
Au moins la première partie, effectivement. Le 15 de France, on va évidemment développer tout au long de la semaine, hein, avec les informations que l'on aura sur la composition d'équipe. Mais voilà, on profite de la présence d'Hilton aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu cet adversaire. C'est vrai que la semaine dernière, pour être tout à fait honnête, Hilton, quand on a présenté le tournoi, au moment où on arrivait au Pays de Galles, on a dit. Bon, est-ce qu'il faut vraiment parler de l'équipe? On va plutôt parler de qu'est-ce qu'on peut visiter à Cardiff.
J'ai entendu et j'ai failli envoyer ma salle.
Il y a un château à visiter.
Oui, oui. C'est pas tout à fait ce qui a été dit la semaine dernière. Mais bon, on va voir les
Tiger, bandes. Tiger, oui.
Non, mais il y a des hammams au Pays de Galles?
Oui, plein.
Si jamais tu as des infos, tu nous dis, Denis, c'est important à tout moment. Non, mais voilà, on voulait t'avoir aussi aujourd'hui pour essayer de comprendre comment le Pays de Galles on est arrivé là. Je le disais tout à l'heure, le 15 du Poirot reste sur deux dernières places consécutives. C'est 12 défaites consécutives, c'est ça, dans le tournoi. Et là, ça a commencé par une claque face à l'Angleterre. Déjà, qu'est-ce qui se dit dans l'opinion, dans la presse, autour de cette équipe? Il doit y avoir une morosité, non? Qu'est-ce qui se dit?
Oui, c'est très triste, pour être honnête. Il y a un peu d'apathie parmi beaucoup de monde parce que on a l'habitude de voir la sélection qui est très forte, qui est concurrent pour les gros titres. Chaque fois le tournoi arrive, c'est le printemps, il y a l'espoir. Tout le monde dit, ah oui, on va gagner le Triple Crown contre les autres Britanniques et les Celtes. On va après viser le tournoi, après on va viser le Grand Chelem. Mais là, depuis 2, 3, 4 ans, on ne vise rien. On vise l'Italie et avec ça, avec la chance. Donc oui, c'est très, très triste.
Et le stade va être rempli? Oui.
Pas du tout. Il manquera 25 000
places. C'est un vrai problème, ça, Hilton. Hein.
Places. Ouais, ah oui, 25 problème. 000, oui.
Parce que, 25 000 places?
Parce que la fédération, elle est propriétaire du stade. Et la finance de la rugby gallois en global est financée par le stade. Et si le stade est vide, il y a moins d'argent pour qui tombe vers les petits clubs pro-amateurs, pour des jeunes, pour tout qui arrive. Et s'il n'y a que 45 000 personne au lieu de 72, il y a un gros trou financier.
Voilà, t'as rien à dire aux supporters français qui nous écoutent, précipitez-vous sur les places. Il reste 25 000 places. Ah, oui, tout le rugby gallois a besoin de cet argent.
C'est un désamour.
Ouais, mais c'est terrible.
Ah, mais c'est triste.
C'est un désamour entre l'équipe.
Denis, c'est un vrai rendez-vous pour nous là-bas.
Mais oui, pour nous, mais je suis surpris qu'il manque 25 000 places. C'est incroyable.
Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire récente, ça, Hilton, ou c'est un vrai phénomène actuel qui manque autant de spectateurs pour un match aussi important?
En novembre, le Pays de Galles a joué contre l'Afrique du Sud, le championnat champion d'un titre, les All Blacks, il y avait des places libres. Donc c'est pas juste, normalement c'est facile de vendre ces places parce que c'est les Néo-Z qui arrivent, les champions du monde arrivent,
bah oui.
Même la France, mais là la stade sera pas vide, il y aura toujours un peu d'ambiance, mais 45, 50 000 dans un stade de 72.
Ça se voit. Hein.
Mais ça s'explique aussi par les résultats. T'en parlais, depuis la Coupe du Monde 2023, ils ont joué 23 matchs officiels, deux victoires, les deux victoires contre le Japon en juillet puis en novembre. Il y a évidemment une fin d'une grosse génération. Quand on regarde le dernier tournoi qu'ils ont gagné en 2021, il y a 10 joueurs qui ont pris leur retraite ou en tout cas qui ne sont plus internationaux depuis. Mais il y a déjà eu des trous générationnels dans d'autres sélections. Comment ça se fait que ça se traduise aussi brusquement sur le terrain par une équipe qui gagne deux matchs en 23 face au Japon? C'est du jamais vu pour le Pays de Galles.
C'est un problème que certains ont vu venir depuis 15 ans, dans le sens où il y avait un président et un directeur général de la FED, et même l'époque de Warren Gatland, où la priorité dans tout le rugby gallois, c'était la sélection. 35-40 mecs qui jouent en sélection, et le reste, pas qu'ils s'en fichaient, mais on fait pas trop gaffe, la formation, ça va s'organiser tout seul. Et après, on avait une bonne génération de joueurs. On avait quasiment deux joueurs à chaque poste au niveau international. Donc, il y avait une blessure, c'est pas grave. Il y a un autre mec qui rentrait. Et là, parce qu'on a oublié de donner de l'argent à la formation, on a oublié de donner assez d'argent aux quatre clubs professionnels. Et maintenant, on est là.
Il y a une promesse qui va être... Ils vont arrêter les promesses.
Oui, normalement, si on suit un peu la logique, les Ospreys vont disparaître à partir de la saison, pas prochaine, mais après. Donc, on va perdre un autre effectif de joueurs. Là, la France, il y a plus que 30 clubs pro. En Pays de Galles, on n'aura que 3.
Non, mais là, je pense aux auditeurs peut-être qui découvrent un peu ça. Hein. C'est vrai, ils suivent ça un petit peu loin. Les Ospreys, c'est un nom qui parle.
Ben oui, oui.
Pour tous ceux qui regardent la Coupe d'Europe, notamment. Ça fait beaucoup réagir quand même au pays. J'ai vu qu'il y avait des manifestations de supporters et tout. C'est un crève-cœur.
Oui, parce que les Ospreys fait partie des... à 5 à la base, maintenant 4 équipes qui n'étaient pas créées mais qui sont devenues pro en 2003, et c'est le club qui réussit le plus, qui gagne le plus de Ligue Celtes. Il faut se souvenir qu'en Coupe d'Europe, il y a un moment où les Ospreys devaient gagner la Coupe d'Europe. Ils ont perdu à Pays Basque contre le BO, contre avec un Tezugan Gwani en 2009, qui sont cet Américain qui était à la vitesse, qu'on aurait été champion d'Europe. Donc non, oui, il y avait des manifestations parmi les supporters. Avant les deux matchs derniers, il y a un groupe d'ex-joueurs qui ont monté en tribune dans la presse pour dire non, on n'est pas content avec ça. Donc ça se voit que ça représente beaucoup pour beaucoup de gens. Et le club des Ospreys, c'est dans la région de Swansea et Neath et Bridgend, les trois clubs historiques.
Mais moi, je suis très, très inquiet, hein, parce que je pense qu'à terme, on va avoir un problème aussi avec les Six Nations. Je le pense. Je pense que
c'est, oui, c'en est un. Hein.
C'est quand même un gros problème.
Il n'y a plus un match. Mais en même temps, si on revient à ça,
qu'est-ce que tu veux dire non,
mais juste pour. Mais il peut sortir du Six Nations, tout simplement.
Mais Dial sortir de Six Nations.
L'Italie a tout perdu pendant 15 ans. Oui, c'est pour ça. Ils ont toujours eu leur place.
Moi, je te dis, je suis très inquiet.
Non, mais il faut que financièrement, ça suive.
Et oui,
c'est ça, le problème. Parce que là, c'est ce que raconte Iltude, c'est que les provinces, elles coulent une à une. S'il n'y a plus le stade qui est rempli, je crois que c'est moins de 50 000 licenciés, hein, au Pays de Galles, le rugby. La France, c'est pas loin, un peu moins de 400 000. C'est beaucoup plus en Angleterre. Donc, il y a un vrai problème économique qui est lié peut-être au problème économique du pays. Ça, tu le sais mieux que moi, Iltude. Mais oui, si, comme tu l'as dit, oui, l'Italie a tout perdu. Mais il ne faut pas une banqueroute. Il faut que les joueurs soient payés. Il y a déjà eu une histoire de grève aussi. Il y a eu une menace de grève, ces dernières années aussi.
Oui, il y a deux ans, jusqu'à quasiment quelques heures avant le coup de voix contre un match contre l'Angleterre, le match de l'année, ils avaient menacé de faire une grève. Donc, je ne vois pas trop ça va réarriver pendant ces tournois-là. Mais il y a des problèmes partout et ça vient de la Fédé.
Mais ce que vient de dire Denis, la crainte, pourquoi pas pour le tournoi, ça existe dans les débats au Pays de Galles. Est-ce qu'on risque pas de disparaître? Enfin, ou là on s'alarme un petit peu, pour être tout à fait.
Je crois que vous alarmez un petit peu. Et en connaissant pas mal des dirigeants de tournoi destination, ils sont pas très chauds de se placer à Tbilissi pour un week-end. Donc.
Non, mais c'est pas ça. La question, elle est pas là. C'est où on trouve l'argent à terme. Comment va
est-ce qu'il y a des perspectives d'amélioration?
Oui, parce que la fédération est très pauvre aujourd'hui.
Oui,
il y a des gros problèmes financiers.
La raison que les Ospreys vont disparaître, c'est parce qu'ils veulent économiser de l'argent pour mettre dans un. Ils veulent créer une académie nationale, un peu comme qu'il avait à Marcoussis le pôle espoir, qui va fournir tous les meilleurs joueurs du pays dans un seul endroit. C'est une très bonne idée, mais en même temps, il y a pas mal de joueurs gallois qui jouent déjà à l'étranger. Les capitaines d'équipe U20. Vendredi soir, on a perdu par 2 points contre les Anglais. Ils jouent déjà à l'étranger.
En fait, l'idée, c'est on enlève une province et on prend l'argent économisé pour former les jeunes. C'est un peu ça. C'est on s'en rend compte qu'on est allé un peu, qu'on est en retard sur ce sujet-là et donc on sacrifie un club pour la formation.
Bah, ils sont pas en retard. Ils ont complètement éviter ce problème pendant ce sujet-là pendant des années.
C'était pas le cas avant, Hiltude, parce que quand on sort cette formidable génération derrière Alouin Jones, voilà, qui nous vole notre place en demi-finale Coupe du Monde 2019 au Japon.
Non, ils la volent pas.
Un petit coup de
on
coupe,
leur donne, on leur donne.
Ouais, trois fois rien. Non, mais c'est vrai, non, mais je plaisante, mais il y a eu une génération incroyable des Alf Penny, des Norse, des, bon, j'ai dit Alouin Jones. Qu'est-ce qui se passait avant? On travaillait mieux ou c'était simplement avec le travail de Gatland et une génération folle, il y a eu des grands chelems, des tournois gagnés, ils s'en sont sortis comme ça. Est-ce que ça travaillait mieux avant, tu penses?
T'as aussi oublié la finale de Coupe du Monde 2011 qui était volée par Vincent Clerc à la plongeoire. Donc,
le plaquage sur Vincent Clerc. Warburton. Voilà,
je crois qu'on a eu une génération dorée qui a un peu de chance, mais aussi le fait qu'il y avait beaucoup de travail à l'époque où eux, ils sortaient d'une génération en génération, ils étaient bien formés parce que le gouvernement, la Fédé était bien organisé. Et après, le focus, ils ont visé trop.
Quand ils ont vu que ça marchait, ils se sont dit, OK, on met tout là-dessus, quoi.
C'est fortement possible. Et malheureusement, ça marche pas parce qu'on a un pays de 3 millions de personnes. La France, c'est plus que 60. On n'a pas une économie énorme. On n'a pas des entreprises internationales qui sont ici. Il n'y a pas Peugeot, il n'y a pas Michelin, il n'y a pas Airbus chez nous. Donc, on n'a pas la chance d'avoir ça. On n'a pas assez d'investisseurs privés qui peuvent donner l'argent dans le club.
Oui, donc quand c'est mal fait, tout de suite, tu le payes.
Exactement.
Est-ce qu'il est possible, je ne sais pas, comme on a pu voir dans notre nation, que la fédération galloise aille chercher des joueurs étrangers avec des origines galloises, par exemple, pour
les Écossais.
Non, mais pour ça, c'est une façon de pallier les défauts de la formation. Hein.
Mais ça s'est fait depuis que le rugby est devenu professionnel. On avait eu une histoire de Granny Gate qui parlait des joueurs qui faisaient des fausses papiers pour dire qu'ils avaient des grands-parents gallois.
Tu sais, nous à RMC, on a eu Roland Courbis qui s'est inventé une vie de grec pour pouvoir jouer
à l'Olympique
en Grèce. Mais vas-y, explique-nous.
Oui, donc il y avait ça. Et même là, en sélection, il y a Elie Smith qui n'est pas né au Pays des Galles, mais il est gallois grâce à des liens familiaux. Le Blair Murray, il est 1,15 qui n'est pas dans le 23 en ce moment, mais lui, il est néo-zélandais à la naissance, mais il a des liens familiaux avec le Pays des Galles. Et je crois que c'est un peu normal. La France utilise sa grosse
oui, avec l'Australie, avec leur... fou,
oui, mais ça
les
c'est
colonies
oui, mais ça c'est grâce à leur argent et de finances et le pays qui existe. Comme le Pays des Galles, un peu comme l'Irlande et l'Écosse, on n'a pas beaucoup de licenciés, on n'a pas une population très grande en tant qu'habitant en général, donc il faut être plus intelligent, plus malin avec la manière qu'on trouve des joueurs.
Et la fédération, c'est quoi? Elle arrive à se réinventer là dans cette séquence, parce que t'as utilisé des mots forts tout à l'heure, on a oublié la formation. Qui sont ces gens qui sont aujourd'hui à la tête de la fédération galloise? Avec quelle vision?
Il a fait une tête, il dit.
Mais non, mais c'est vrai que c'est important pour comprendre parce que c'est le fonctionnement.
C'est ça m'attriste beaucoup parce que le rugby pour moi représente beaucoup parce que j'ai joué depuis que j'ai 6 ans, j'avais des poteaux dans le jardin et on voit des gens qui sont à la tête de la fédé qui sont même pas au stade des matchs. Ils sont même pas allés au match des équipes professionnelles.
Mais qui sont les gens qui t'ont fait venir au Pays de Galles? On veut parler un peu d'Hiltude. Qui sont les gens qui t'ont fait venir au rugby, Hiltude, qui t'a fait rêver, toi, au Pays de Galles
Des joueurs
La génération.
Il faut dire Arwa Thomas, un disque. Il a joué à la section paloise pour une saison, je crois. Mais non, il jouait pour le Swansea. Un petit disque. Je crois que c'est lui qui a mis un coup de poing à Philippe Carbonneau, un gars de France. mais lui, des joueurs comme lui, même Gavin Henson un peu plus tard. Le Pays des Galles a de la chance de toujours avoir des jeunes qui veulent jouer le rugby. Mais il faut les aider.
C'est toujours le cas maintenant?
Oui, oui, mais il faut juste les aider et les former pour qu'ils sortent le meilleur niveau possible, qu'ils ont des cadres pour jouer. Même s'ils ne sortent pas leur meilleur niveau en U16-18, qui est dans le temps pour jouer à un niveau universitaire, pour quand ils ont 23 ans, ils peuvent aussi se sortir.
Il n'y a plus de stars, en fait. C'est ça le drame.
Il y a Riz Ahmed, quoi, qui est un peu le
Riz Ahmed, qui s'est fait connaître parce qu'il est parti en NFL, tu vois, mais. On ne peut pas dire qu'il ait marqué les esprits non plus. Hein.
Mais c'est vrai, parce qu'il faut des têtes affiches pour mettre les affiches pour vendre des places. Il faut
c'est
avoir
compliqué
plus
parce
que
qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas de référence, par exemple. Nous, Français, je parle.
Non, mais en fait, c'est terrible parce qu'effectivement, c'est aussi ce qui va inspirer les nouvelles générations en disant j'ai envie d'être comme ce joueur-là. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Quand j'étais gamin, il y avait les poteaux et tout, déjà, en jouant au rugby. C'est un petit pays, hein, je ne dis pas ça de manière péjorative. Tu disais combien de millions d'habitants?
3
millions. L'importance du rugby dans ce pays, quand depuis que t'es gamin, je sais pas, dans les classes et tout, c'est quoi? On est tous biberonnés rugby, c'est le
C'est le sport numéro un. Il y a les sports gaéliques après, peut-être.
Ça dépend, parce que le foot a vraiment pris sa place avec Gareth Bale, l'Euro 2016.
Ouais, j'avais demandé à quel point ça...
On est arrivé, après on a fait un Coupe du Monde, on a refait un Euro. Et ça a beaucoup changé. On a eu Swansea City qui a joué en Premier League, donc ça a beaucoup aidé le foot. Mais le rugby reste... Moi, j'ai une blague où je suis né avec une licence dans ma poche. J'avais pas le choix.
Tu es né avec une licence dans la poche.
Donc, c'est comme ça.
Ah, c'est culturel là-bas. Quand il fait... On s'en rend compte quand on y passe deux ou trois jours et tu te dis... Non, c'est vraiment le rugby. C'est pas le sport numéro un, peut-être, mais... parce que c'est le foot, mais c'est dans la.
C'est un peu moins le cas, du coup, peut-être aujourd'hui, de naître avec une licence de rugby dans la poche.
Peut-être, mais jusqu'à il y a deux ans, la sélection fédérait tout le monde dans le pays. Quand la sélection jouait, Cardiff s'arrêtait, le pays s'arrêtait.
Le pays s'arrête, oui, t'as raison.
Moi, je trouve incroyable qu'il y ait des choses qui existent dans un pays, ou qui se passent dans le pays, le même jour que la sélection nationale joue. Ouais. Moi, tout balade à Paris. Les gens ne savent pas, mais tu blades à Cardiff un jour de match, même un jour de match.
C'est pas la même taille de ville, mais bon.
Même un jour de match à l'extérieur.
Tu sais qu'il y a un match, en fait, parce que ça s'arrête.
Ouais. Mais il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Moi, Georges, c'est incroyable.
C'est le cœur du destination, moi, je dis.
La ville s'arrête. C'est-à-dire, c'est un no man's land. C'est-à-dire, il n'y a plus personne dans les rues. Il n'y a plus personne.
Les supermarchés sont vides.
La ville n'existe plus en dehors du stade. Là, tu as 80 000 personnes qui sont.
Et puis il faut sauver un peu ce rugby gallois, parce que Denis, tu quand même, on parle de biberonné, mais toi quand tu jouais,
j'avais des mecs,
tu as dû avoir les gallois en modèle, en idole, effectivement. Alors ça remonte évidemment maintenant, parce que
ça parle à personne, mais il y a Phil Bennett, des Gareth Edwards,
c'est une culture, c'est une histoire, c'est voilà, Cardiff,
ils ont eu des immenses joueurs,
stade, c'est...
non mais voilà, surtout ils ont eu des superstars en rugby, qui faisaient partie des meilleurs joueurs du monde. Gareth Edwards fait partie, après, avec Antoine Dupont, c'est peut-être les deux meilleurs joueurs du monde qui aient jamais eu. Donc, y en a eu des joueurs, j'ai pas, qui me viennent à l'esprit, mais je les connaissais tous à l'époque. J'étais gamin, moi, je connaissais tout le monde. Et moi, j'avais eu. C'est marrant qu'on parle de ça, parce que un de mes anniversaires, mes parents m'avaient offert la tenue de l'équipe de Galles.
Ouais.
Je sais pas pourquoi, j'ai jamais demandé, mais ça m'avait fait un plaisir fou et je l'avais mise, le maillot rouge, le short blanc, les chaussettes rouges, en laine. À l'époque, c'était en laine. Et voilà, donc c'était quand même, il y avait.
Tu te rends compte, Hilton, vous avez été tout proche d'avoir Denis Charvet. Hein,
c'est génial quand même. Ça représentait quelque chose d'extrêmement fort. Je veux dire, on se rend pas compte aujourd'hui parce que ça a perdu de son aura, mais le Pays de Galles, c'était pas le Brésil en football, mais
le Black.
Non, mais aussi, ce maillot a représenté quelque chose.
Oui,
cette couleur.
Complètement.
Tu dis, comme tu compares ça peut-être avec le Brésil ou je sais pas ça, ce maillot était iconique pour quelque chose.
Symbolique.
C'est un peu là aussi la manière qu'on jouait et que quand t'es gamin, moi je me souviens quand je jouais au lycée et le rugby de lycée en Pays de Galles, c'est très important. Nous, on n'avait pas le droit de taper au ballon. Taper le ballon.
Pour jouer.
Donc, si tu tapes le ballon, tu sors de match direct. Et en tant que 10, c'était très très difficile. Mais c'est comme ça, toujours à la main, c'est joué à la main, c'est un peu à la Toulousain aussi.
Et là maintenant, t'es à Saint-Ouen et tu montes des quilles pendant toute l'après-midi.
Il faut pas dire ça.
Il y avait des joueurs comme J.P.R. Williams, on voit un des gars qui était Phil Bennett, mais je l'ai dit, Barry John, qui était une icône, comment il s'appelait, Mel Mirohit, qui était énorme.
Mais en fait, ce qui est quand même assez symptomatique de notre discussion, là, c'est qu'on parle du Pays de Galles et qu'on parle du passé, en fait, quand on essaie de présenter ce match. En fait, on s'est même un peu pris la tête sur comment on va présenter ce match, parce que c'est vrai que sportivement, ça semble être le plus simple sur le papier. Mais si tu dois nous expliquer, Hilton, en quelques mots, à quoi joue le Pays de Galles, en fait, aujourd'hui, le sélectionneur, c'est Steve Tandy, c'est un ancien troisième ligne des Ospreys. Mais qu'est-ce qui dit, par exemple, Steve Tandy dans ses conférences de presse, qu'est-ce qu'il dit à la presse, qu'est-ce qu'il dit sur le projet de jeu de cette équipe quand on est sur une telle mauvaise série?
D'abord, c'est très compliqué pour Tandy parce que c'est un ancien troisième ligne des Ospreys, c'est un ancien entraîneur des Ospreys, et là, son ancien club est menacé par son actuel employé.
Le timing est terrible.
Donc, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut pas dire grand chose. Et qu'est-ce qui fait, dans mon point de vue, des erreurs, qu'il a des assistantes entraîneurs qui ne sont pas là en plein temps. Donc il vient pendant le stage.
Il n'est pas là parce qu'il y a eu un problème aussi.
Oui, il s'est blessé deux fois le genou, mais ça, c'est pas. Je crois que c'est un hasard.
C'était un joueur important.
Les agents ne sont pas là. C'est pas comme Fabien Galthié avec Laurent Tempéré, Patrick Arletaz et William Servat qui sont avec lui tout le temps. Ils viennent que quand il y a des matchs.
Tandy, il n'a pas. C'est un spécialiste de la défense. Il était en train de défendre avec les Waratahs en Australie, avec l'Écosse quand ils ont fait de très beaux tournois défensivement. Et lui, il est resté coach de défense, donc il est head coach et defense coach. Donc, est-ce que tu peux porter deux chapeaux à ce niveau-là? Je sais pas.
Bon, après, attention, il a pas les joueurs. Tu peux tout te raconter, la qualité n'est pas là. Le Pays de Galles aujourd'hui, c'est une belle équipe de top 14, de fond de tableau, voire de pro D2. Donc, j'exagère pas en disant ça. Non, mais je.
Tu le trouves dur, Ilsad, là, Denis?
Quand voit Thomas Francis, il joue en pro D2. Mais attends, c'est un peu logique.
Il y a combien d'équipes du top 14 qui battent les Pays de Galles, d'après vous?
C'est compliqué à dire.
Non, mais vas-y, réponds. Wilfried, réponds.
C'est la pression qui te met.
Mais moi, je pense qu'il y a...
Moi, combien il y a d'équipes du top 14 qui battent les Pays de Galles?
C'est qui à dire, mais.
Top 6.
Top 6, oui. Ouais. Moi, je pense top 6, c'est les top 6 qui gagnent. Mais c'est la vérité. Donc, ça veut dire que ça place à un endroit précis, c'est l'équipe du Pays de Galles. Oui. Donc, l'entraîneur, je veux bien qu'on le critique. Mais tu peux mettre n'importe qui à sa place, ça ne changera rien. La vérité, la génération aujourd'hui n'est pas. Il n'y a pas une génération de qualité, tout simplement.
Quand je dis que je trouve ça inquiétant, alors c'est vrai que les Géorgiens qui frappent à la porte du tournoi auront pas sa vie, mais moi je dis qu'il faut sauver le rugby gallois.
Ah oui,
parce que quand j'ai parlé de ça, Denis, c'est un pan d'histoire dans le tournoi. Il faut avoir été à Cardiff pour un match du Pays de Galles, être dans ce stade.
Mais c'est l'histoire du rugby.
C'est mythique. Je le répète, je disais toujours, c'est le cœur du Six Nations quand on va là-bas. Et la France a tellement souffert de certains match là-bas avec un savoir-faire gallois pendant des années où on pouvait nous avoir du talent et tomber sur un collectif. Enfin, ce qu'a fait Warren Gatland pendant des années, c'est extraordinaire quand il vous dit qu'on est 3 millions d'habitants et moins de 50 000 licenciés. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut peut-être les aider, j'en sais rien, les aider financièrement parce que le rugby gallois ne peut pas s'écrouler de cette façon.
Tu veux lancer une gagnante?
C'est intéressant quand tu parles de 3 millions d'habitants, la Nouvelle-Zélande, c'est 3 millions, je crois. Oui. Pareil.
Et 9 millions moutons, comme nous. Donc c'est
non, mais c'est un peu pareil, quoi. Tu vois,
mais avec des investissements sur la formation, un business plan, on va dire, autour de la marque.
La marque, plus forte, on est d'accord. Mais oui. À l'époque,
elle était extrêmement
forte à l'époque.
Mais alors, et ils sautent, que disent les joueurs? En fait, parce que là, on est en train de les allumer en disant il y a pas de génération et tout ça.
J'imagine que les
discussions sont les mêmes dans le journalisme gallois sur place. Mais les joueurs, après une nouvelle défaite, après avoir pris une claque contre les Anglais, par exemple, ils disent quoi? Ils disent pardon, on peut pas faire mieux.
Daryl Lake, le capitaine qui joue Pleasure Spray, qui a signé pour Gloucester l'année prochaine. Donc, c'est pas juste parler, il a fait la décision de partir. Il s'est dit qu'il c'était honteux quasiment la première mi-temps. Ils ont déçu eux-mêmes, ils ont déçu tout leur coach, tout le pays. Donc, ils se rendent compte à quel point que c'est inadmissible les performances comme ça. Mais je crois qu'ils captent aussi qu'en ce moment, malheureusement, le contexte extra-sportif pèse très lourdement.
Mais parce que là, on a presque l'impression qu'ils n'essayent même pas. Contre l'Angleterre, on se dit qu'ils démarrent le match en se disant ça va être compliqué, on ne va pas pouvoir jouer. Et en première mi-temps, tu l'as dit, ils ne font rien. Ils savent pas quoi faire du ballon, ils sont complètement pris de partout. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer sur ce tournoi? C'est quoi? C'est battre l'Italie? C'est ça que tout le monde se dit? C'est peut-être la chose à espérer, c'est pas refaire une cuillère de bois?
C'était très intéressant. J'ai regardé la télé galloise après match contre l'Angleterre. Il y avait Robert McBride, qui est l'ancien talonneur de la sélection, qui est aussi l'entraîneur des avants sous Ron Gatland. Et maintenant, il travaille à Leinster, il disait, il faut jouer la base, faire des choses simples, parce que il avait l'impression, je suis d'accord, qu'ils ont tenté trop de trucs. Ils ont essayé de trop jouer, de chercher des choses un peu larges. À Twickenham, sauf les Français, il y a 3 ans, 52 à 10, il faut pas aller là-bas pour jouer avec le ballon.
Ils ont pris des cartons, en plus.
Ouais, il faut faire des choses simples, les bases, et après, on va voir où on est. Et quand Denis a dit qu'on n'a pas de vrais individuels, il faut focaliser sur le collectif d'abord et après aller au-dessus.
Oui, jouer simple, tu as raison, revenir à la base.
Mais ça a été tellement vite, ils ont gagné le tournoi en 2021, il y a 5 ans.
Oui.
Vous imaginez?
Oui, mais il y a des grands joueurs qui sont partis, Wilfried. C'est ça le problème. Dont le capitaine qui était quand même la poutre maîtresse de cette équipe. Donc, oui,
la poutre maîtresse, ok.
Non,
mais j'aime bien. Aujourd'hui, la pièce maîtresse, mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. C'est quelque chose qui soutient tout l'édifice.
Pièce maîtresse. Oui.
Et maintenant, il distille son propre homme, donc qu'est-ce qu'il a
fait? Et qu'est-ce qu'il se dit de ce match à venir contre la France? C'est quoi? Il faut éviter l'humiliation?
Je crois que c'est un peu la même chose que contre les Anglais où on a peur, on craint, parce qu'on voit, même sans avoir regardé contre l'Irlande, la France, ils ont 2-3 joueurs à un niveau exceptionnel. Et qu'ils arrivent à laisser à l'écart quasiment 200 sélections pour faire jouer des gens qui sont presque plus forts que les autres. Donc,
moi, j'ai très peur. Pourquoi? Parce que l'année dernière, souvenez-vous, les Anglais ont battu les Pays de Galles 68. Si je me trompe bien.
Ouais, c'est un record.
C'est ça, non, à peu près.
Avec Henry
Pollard. À Cardiff.
Ouais. Merci beaucoup.
Ça veut dire que tu peux très bien avoir un score comme ça samedi, dimanche. Hein.
Ouais, mais t'as peur.
Non, mais peur.
Mais c'est pas très
moi, je suis content.
Mais
non, alors, pour le 70, non, galons, non, désolé, non,
moi, sincèrement, ça me dérange. Ça me dérangerait profondément.
14-68 l'année dernière.
Ouais, non, mais ça serait catastrophique.
Entre les Anglais.
Pour le tournoi, ça serait catastrophique.
Ce serait catastrophique. Alors, tu nous as dit, Hilton, l'important en ce moment, c'est peut-être se revenir sur les bases, parler du collectif plutôt que des joueurs individuels. Mais quand même, si là, nos auditeurs, on sait, peut-être parfois, ils écoutent entre les poteaux. Et derrière, ils se la racontent un peu avec leurs potes en disant, tu sais, là, il y a un numéro 7, il est quand même pas trop mal. Non, mais s'il y a 2-3 joueurs gallois, peut-être à observer, si on doit citer quelques individualités, tu parlerais de qui? C'est quoi tes coups de cœur?
On a vu la deuxième mi-temps, Louis Hamet à 15, je crois que ça, c'est sa poste maintenant. Il a beaucoup plus de ballons, donc il a le temps.
Seul joueur genre dangereux.
Mais après, je trouve, sur le banc, il avait Harry Deeves en troisième ligne avec les casques
très bon,
il
est rentré très très fort.
Qui est exceptionnel.
Non, il était très bon, je pense qu'il va jouer contre la France.
J'espère qu'il va être titulaire parce qu'il faut des mecs comme ça.
Wainwright est pas mal aussi.
Oui, il a une belle moustache, donc ça marche aussi, donc c'est cool.
Et il manque le capitaine Jack Morgan, qui est le joueur dont on parle souvent comme la future génération qui est très très forte.
Mais Jack Morgan, c'est un peu comme Sergio Parisse pour les Italiens. Il jouait, il sortait de l'eau même en défaite. Et c'est un peu triste, mais...
Il est blessé, Morgan.
Oui. Jack Morgan est blessé, ouais.
Demi de mêlée aussi.
Et Williams.
Thomas Williams devait partir avec les Lions.
Il a une belle moustache en plus.
Ouais. Oui, il ressemble un peu à lui.
Et le 10, Dan Edwards, qui joue pour les Ospreys, qui a re-signé pour les Ospreys, même s'il aura pas, si le club n'existera pas. Il fait des drops dans les minutes et il a une manière de jouer très à la galloise, son 10. Il me rappelle Harold Thomas, mon idole de mon enfance. Donc ça fait plaisir de le voir, mais il reste un peu très petit gabarit. Il a même pas une quinzaine de sélections, donc... contre la France qui va venir avec l'artillerie rude, ça va être difficile.
Pays de Galles, France à Cardiff, donc dimanche à 16h10. Hilton Dafydd, très content de t'accueillir aujourd'hui. Journaliste gallois à l'AFP. Juste, on a donné quelques conseils la semaine dernière. Les supporters français,
donne des vrais conseils.
Bon, à Cardiff, qu'est-ce qu'il faut faire à toi? Absolument. Un truc qu'on ne trouve pas en tapant sur Google, les 5 endroits à ne pas rater à Cardiff.
Tu vas les trouver sur Google, hein?
Ben non, justement.
Est-ce que vous êtes sûr? Parce que il y a des adresses à connaître et à ne pas connaître.
Non, mais qu'est-ce que tu conseillerais à Cardiff?
Non, mais Cardiff, c'est tellement petite comme ville et tout est concentré à des bons cafés pour boire du café torréfié stylé le matin pour avoir un peu d'énergie. Ouais. Et après, il faut aller trouver le pub Old Arcade ou Tiny Rebel. Ils sont comme Denis.
Comment tu as dit? Dis plus doucement pour les auditeurs.
Old Arcade et Tiny Rebel.
Tiny Rebel.
Et ils sont, on peut pas les louper parce qu'ils sont à 2 pas du stade, donc facile.
Ben voilà, c'est parfait. Ben vous avez tout ce qu'il faut savoir maintenant. Vous allez comprendre aussi pourquoi il y a des chaises vides aussi peut-être à côté de vous au stade à Cardiff. Merci Hilton Dafydd, journaliste gallois à l'AFP d'avoir été avec nous.
Merci,
on a appris plein de
Merci
choses
beaucoup.
Avec toi. Et c'est aussi ce qu'on aime vous proposer dans Entre les poteaux, aller un petit peu plus loin à certains sujets pour arriver parfaitement préparé avant les rencontres. Merci Denis Charvet.
Avec plaisir.
Tu nous dis la prochaine fois que tu vas dans un hammam avec qui tu vas y aller, tu penses?
Je sais pas.
Quelqu'un de connu.
Globalement, il va tous les jours avec des gens.
Je sens que ça va devenir un running gag.
Tu sais que j'avais fait un hammam avec Eddie Jones à l'époque.
Avec
Eddie Jones.
Au Japon,
oh là là là. Oh, ça devait être bien, c'est
incroyable. Mais j'étais un copain, en plus, je le connaissais.
Non, mais on va peut-être lancer un podcast. Hein.
Le hammam de Denis Charvet.
Au même hammam que ce matin.
Mais non, tu fais un podcast dans le hammam.
Mais oui, c'est sûr. Bien sûr, c'est les interviews de Denis.
On met un iPhone et c'est l'interview de Denis dans le hammam.
Avec grand plaisir.
Voilà, je pense que là, les amis qui font le podcast Legend sont en train de craindre maintenant le podcast interview à venir hammam de Denis Charvet. Merci Wilfried Templier.
Salut.
Et merci également Pierre. Venez entre les poteaux, abonnez-vous sur toutes les plateformes de téléchargement. Rendez-vous vendredi pour
Pierre Ténic sera à nos côtés à Cardiff, aux commentaires.
Oui,
dans le
stade. Dans le rendez-vous.
Oui, mais t'as le temps pour commenter. T'as le patron là avec.
Je voulais juste être sûr. Ouais. Allez, à plus, tes amis.